Merci Saul, c'est comme une petite émotion de revenir 4 ans après la première édition, et puis j'ai manqué, je suis désolé, l'édition à Barcelone. Voilà, c'est, enfin, le problème est pour moi d'ailleurs, parce que vous y étiez, ça devait être super. Donc et bravo pour l'organisation, vraiment c'est super, je sais très bien le travail que ça représente, tous les aspects qui peuvent être difficiles d'organisation. Alors, j'ai, je pense, le titre le plus incompréhensible de ce colloque. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça ? Merci. Je pense que j'ai le titre le plus incompréhensible du colloque, mais j'espère qu'il le sera moins après mon intervention. Ah, c'est pas le bon micro, en fait. Ok, alors je refais. C'est mieux comme ça ? Voilà, on m'avait induit en erreur. Donc, je disais, j'ai le titre le plus incompréhensible, mais j'espère qu'il le sera moins après cette demi-heure. Alors, quelques éléments de contexte très rapides. Du coup, j'étais à Toulouse, maintenant j'enseigne ici, à Genève. Vous êtes cordialement invité fin juin pour l'inauguration du campus. Qu'est-ce que je fais là-bas? Je dirige la recherche au niveau de l'école. Il y a une trentaine de projets en cours dans tous les champs qu'on enseigne en mode architecture, art visuel, cinéma, etc. Je passe tout ça en ligne. Et j'ai commencé à m'intéresser aux technologies blockchain. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant mieux, je vais essayer de vous l'expliquer. En 2018, à l'époque, j'avais monté ce cycle de rencontres à la Gaîté Lyrique, qui était, je pense, de qualité. Ça n'intéressait personne, malgré tout dans le public et au niveau médiatique. Et il y a deux mois, j'ai fait une conférence au même endroit et c'est sold out quelques jours avant. Donc c'est pour montrer qu'en fait, en 5 ans, il s'est quand même passé 4 ans, il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et puis, donc, s'il y a des licences 1 qui, à l'époque, ont suivi mon cours à Toulouse, et si vous avez acheté des crypto-monnaies, je pense que vous pouvez me remercier aujourd'hui. Et je veux bien 10% des gains. Pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Alors, déjà, définition de famille. Alors, j'étais voir dans le dictionnaire. On voit deux définitions qui se recoupent en partie. Tout d'abord, la définition un peu traditionnelle, en tout cas juridique, de regroupement de personnes liées par le sang, un pacte ou des liens d'adoption ou le mariage. Et puis, un deuxième volet plus général, plus abstrait, qui du coup renvoie à l'idée de d'individus qui s'assemblent, qui se rassemblent par des similitudes ou par des idéologies. On verra que dans le cas de la blockchain, on est plutôt sur le deuxième volet, mais peut-être, on verra qu'il y a peut-être des liens avec le premier aspect. Donc ma problématique, pour l'instant elle n'est pas compréhensible vu que je n'ai pas expliqué les termes, mais ils vont venir après, c'est quel type de famille les technologies décentralisées produisent-elles ? Et puis du coup, donc, ces nouvelles communautés, enfin, on verra en quoi elles sont nouvelles ou pas d'ailleurs, est-ce qu'elles rejouent des normes sociales, auquel cas elles ne seraient pas nouvelles, et des stéréotypes, ou est-ce qu'elles permettent d'en faire autre chose? Alors, évidemment, comme souvent avec les technologies, c'est un peu des deux. Alors, un peu d'actualité, je vais commencer par vous parler des métavers. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une vieille idée, en fait. Donc les métavers, c'est l'idée d'un web 3D immersif dans lequel on peut faire tout un tas de choses. Et donc, la dernière version en date, c'est celle de Facebook, qui s'est renommée en Meta il y a quelques mois, et donc qui a remis ce terme au centre d'actualité, qui a créé beaucoup, beaucoup de buzz. Mais en fait, voilà, c'est une très longue histoire. On peut remonter au moins à 40 ans avec le roman Nos romanceurs de William Gibson. Alors, j'ai quand même mis des références de films. Je les ai rachetées ce matin à 7h du matin, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune référence de film et de série dans ma conférence. Mais du coup, voilà, j'ai remédié à ça. Donc il y a ce film, je pense que vous connaissez, de Spielberg, Ready Player One, qui est, je trouve, un mauvais film, mais apparemment un bon roman, m'avait dit Saul un jour. Mais l'idée est quand même intéressante. C'est l'idée quoi, là, que le monde est foutu, et du coup on peut s'amuser quand même dans ce casque de réalité virtuelle, pour le dire rapidement. Alors on a quand même des réalisations partielles de cette idée. Ici, un des premiers métavers fonctionnels, 3D, parce que les métavers 3D apparaissent évidemment quand les machines le permettent. Fin années 90, début 2000, donc Second Life, le premier exemple vraiment marquant, avec pour la première fois une monnaie intégrée dans l'univers, j'ai pas envie de dire dans le jeu, parce que je suis pas sûr que ce soit un jeu, et puis donc déjà des identités plus ou moins fantaisistes, en tout cas des pratiques sociales intéressantes et qui dépassent les stéréotypes qu'on retrouve habituellement dans les jeux vidéo. Plus stéréotypés, bien que plus proches de nous, vous voyez la différence d'iconographie. Decentraland, donc un métavers 3D qui repose sur la blockchain, et du coup avec une vision cette fois vraiment économique, et ça ressemble plus à un centre commercial à Dubaï qu'à Burning Man. Ici, encore peut-être plus déprimant, si vous avez marre de Teams et de Zoom, vous allez cauchemarder de ça. Du coup, la promesse par Facebook d'un web immersif qui fusionnerait loisirs et travail, et dans lequel vous pourriez passer tout un tas de temps. Pour information, Facebook a annoncé qu'il prendrait, je crois que c'est 37% de commission sur les ventes. Donc c'est encore plus que les App Store qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, bah, on voit, voilà, là, typiquement, c'est un univers 3D qui n'a aucun intérêt créatif, qui reproduit tous les codes, les pires codes du bureau, etc., avec des avatars, voilà, l'esthétique pseudo-réaliste, cartoon, et assez douteuse. Et je pense qu'on va vite s'y ennuyer. Mais avec deux, trois pandémies, peut-être ça pourrait marcher. Malgré tout, Facebook a la force de frappe pour peut-être imposer ses univers. Alors, malgré ces gros mastodontes, d'autres choses sont possibles. Je voulais quand même mentionner ça. On a fait un symposium récemment à Genève sur des métavers alternatifs créés par des artistes et designers. J'en montre un seul. Je pense, Saul, ça pourrait t'intéresser. Créé par cette personne, Kaiken, qui du coup explore d'autres types de métavers et d'autres types de sociabilité et aussi de sexualité. Et évidemment, on peut se douter que Meta ne ressemblera pas vraiment à ça. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, c'est marqué, c'est pas fixé d'avance. Et on peut-être aller vers des choses plus intéressantes créativement. Donc les métavers ne sont pas forcément à rejeter en masse, mais effectivement, les gros mastodontes commerciaux sont douteux, pour le dire comme ça. J'ai déjà dit tout ça, donc je ne vais pas répéter. Le web entre utopie et économie, donc je vais faire un détour par l'histoire du web pour arriver à la blockchain. Donc le web 1 a été, le web historiquement, a été inventé à la frontière franco-suisse. Je crois que c'est. D'ailleurs, l'anneau du CERN passe plus ou moins sous mon bureau. Si un jour il y a un trou noir, je vais être aspiré en premier. Donc ça, c'est 1989. Et un des problèmes qui se pose avec le web, c'est la notion de propriété. Parce que du coup, vous pouvez copier-coller n'importe quoi et les fichiers peuvent circuler sur le réseau sans contrôle possible de la part des personnes qui ont créé ces fichiers. Et du coup, la blockchain en 2009 va permettre de résoudre ce problème de contrôle. Pour la première fois, alors il y a d'autres choses, je me fais engueuler sur Twitter si je dis ça, que c'est pour la première fois, mais on va dire pour la première fois de façon opérante, parce que si ça concerne 3 geeks dans un garage, c'est pas très opérant, de créer de l'unicité. Alors pour la première fois, c'était pour la monnaie, ce qu'on appelle le bitcoin, je pense que vous avez entendu parler. Une façon simple d'expliquer le bitcoin, si vous me donnez un billet de 20 euros, ben, vous ne l'avez plus. Si vous l'avez encore quand vous me le donnez, il existe deux fois, donc il va perdre de la valeur. Pour qu'une monnaie ait de la valeur, il faut une certaine rareté. Et donc bitcoin permet de faire ça de façon numérique pour la première fois. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement, ça va être beaucoup trop long. Et ce mouvement, d'où ça vient, la blockchain et bitcoin, pourquoi ça apparaît à ce moment-là? Ça apparaît en réaction aux crises bancaires de 2008, les graves crises financières, et ça vient d'un mouvement qui s'appelle le cypherpunk, qui est la contraction du coup du chiffrement, cypher et punk. Et du coup, c'est un mouvement à la base contre le capitalisme et la spéculation, ce qui est assez paradoxal quand on voit ce que c'est devenu depuis. Ici, une image que je trouve intéressante d'une couverture de Wired de 1993, donc la revue californienne de référence dans la tech, qui du coup montre, voilà, ces cypherpunks, j'ai mis les noms en dessous, du coup qui se battent pour le respect de la vie privée en ligne et l'anonymat. Ce qui du coup fait écho à la conférence d'avant sur Replica. On retrouve cette vous voyez encore une référence de série, une référence de cet univers dans une série comme Mr. Robot, qui reprend vraiment ce type d'iconographie et d'univers. Donc Bitcoin 2009 est une évolution technique, mais une idéologie tout autre avec Ethereum en 2015, qui du coup ajoute tout un tas de services à l'idée de la monnaie. En gros, on prend l'idée d'unicité, mais on l'étend à peu près tout. Donc on peut faire d'unicité pour des images, pour de la vidéo, pour tout un tas de choses. Donc Ether, voilà, une plateforme de services basée sur la blockchain. On verra après des exemples de à quoi ça peut servir. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, tout ça s'est rassemblé sous le terme marketing de Web3. Je dis terme marketing parce qu'en fait, pas grand monde sait le définir. On peut quand même essayer d'en tenter une esquisse en disant que ça renvoie à une évolution ou une itération du web basée sur la blockchain et qui, du coup, va intégrer cette monnaie qui est le Bitcoin et toute l'économie basée sur les tokens. Donc, c'est sur ces jetons qui sont authentifiés en ligne. Oui, j'ai noté ça, une famille d'investisseurs, parce que du coup, bah, c'est quand même des valeurs économiques qui régissent cet univers-là, et que du coup, même si personne ne sait ce que ça veut dire, les investisseurs balancent des millions d'euros là-dedans. C'est vraiment le terme chaud en ce moment. Alors voilà, donc Web 1, Web 2, Web 3. Donc Web 1, le vieux web de Tim Berners-Lee, même si la promesse est de partager des savoirs scientifiques à l'échelle mondiale, bah, c'était trop compliqué pour beaucoup de gens, donc du coup, beaucoup de gens restaient en mode lecture, sans contribuer à l'augmentation des connaissances. Pour parer à ce problème, le Web 2, donc le web des médias sociaux des années 2000, Facebook, Twitter, etc., a créé des plateformes qui, du coup, simplifient grandement le partage d'informations, la création d'informations, mais avec comme principal revers une captation des données. Donc Replica qui a été montré avant, on pourrait l'intégrer là-dedans. Et du coup, pas de redistribution de la valeur. C'est-à-dire que le temps que vous créez dans Replica, vous créez de la valeur pour la boîte, vous n'en gagnez rien. Pareil, vous mettez des tweets, vous résolvez des CAPTCHA pour identifier des images, vous passez du temps sur Instagram, TikTok, c'est 52 minutes par jour en moyenne, c'est gigantesque. Ouais, tout ce temps-là, il fait que renforcer la valeur de ces entreprises. Et donc la promesse du Web 3, c'est de dire qu'on va promesse. Hein, j'ai pas dit que c'était réalisé. C'est d'aller vers des choses plus horizontales, plus décentralisées et plus qui permettent davantage de redistribution. Mais le Web 3, du coup, c'est un ensemble de briques. Donc j'ai parlé du Bitcoin, j'ai parlé juste de ça. Donc on va voir maintenant les autres briques qui composent ce Web 3. La deuxième brique, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Alors ça, c'est assez flippant. C'est une sorte de Wall Street jour et nuit inarrêtable et qui échappe aux États. Et ça représente aujourd'hui 220 milliards de dollars. Donc c'est considérable. Ensuite, il y a les NFT. Ça, j'y reviendrai. Donc c'est des certificats de propriété sur la blockchain qui permettent notamment d'identifier des images, mais pas seulement. La quatrième brique, c'est les DAO. Donc c'est le thème de ma conférence, mais j'ai besoin de resituer ça de façon plus large. Donc c'est des formes de gouvernance décentralisées. Et la cinquième brique, on n'en parle pas du tout. C'est donc DAO, c'est le prochain buzzword, et DID, c'est encore celui d'après. Donc si le prendre de l'avance, aller direct sur le cinquième, j'y reviendrai après pour vous dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la famille? Est-ce que ça pourrait, ces cinq briques, faire des fondations familiales? Et est-ce qu'on parle de famille anarchiste ou de famille de droite? Je pense que c'est un peu des deux. Donc on a un système numéraire, un système économique, un système de propriété, un système de gouvernance et un système d'identité. Donc ça commence à devenir assez costaud. En synthèse de cette partie-là, donc des utopies contrariées du web. Peut-être que le Web 3 deviendra également à son tour une utopie contrariée, enfin c'est possible. De nombreux problèmes liés au Web 2, vie privée, j'en ai parlé, captation de la valeur, copyright, etc. Toujours des tensions entre centralisation et décentralisation. Et du coup, avec ces nouvelles utopies ou ces nouvelles promesses, est-ce qu'on pourrait aller vers de nouvelles formes de familles? Alors, on va le voir avec un premier exemple avec ces NFT, avec les collectibles, donc des items à collectionner, qui permettent peut-être, enfin, ce n'est pas peut-être, hein, c'est déjà actif, des modes de sociabilité singuliers. Alors, c'est une vieille idée, cette idée de la collection d'objets en ligne. Ici, j'ai retrouvé un message dans une mailing list de Al Finney, qui était un cypher, enfin, qui, oui, je crois qu'il est mort, un cypherpunk notable, qui du coup disait que pour populariser l'idée d'une monnaie numérique, ce serait pas idiot de faire des cartes à collectionner cryptographiques. Et il dit, voilà, c'est un parfait objet de conversation à conseiller précieusement et à montrer à vos amis et à votre famille. Ouais, je pense que je suis dans le thème du colloque avec ça. Et qu'il existera plusieurs cartes, etc., et que votre marchand de cartes à collectionner pourra se joindre à la fête et racheter vos cartes ou les vendre. 93, donc la blockchain, c'est 2009, donc c'est bien avant. Et effectivement, là, on a comment on fait ça en ligne? Là, on a des cartes Pokémon. Comment on rend unique ce type de carte en ligne? La blockchain va permettre de créer de la rareté artificielle. Bon, c'est un pléonasme, parce que la rareté, c'est toujours artificiel. Dans un sens, c'est des consensus sociaux. Alors, un des premiers exemples notables, c'est pas le premier NFT, les tout premiers, c'est 2015, mais c'est peut-être l'exemple le plus connu. Donc, c'est une série d'images de 24 pixels de côté qui, à la base, était distribuée gratuitement sur le réseau Ethereum. Il y a 10 000 exemplaires, chacun a une apparence différente. Il y a différents niveaux de rareté. En 2018, donc quand je fais ce cours en licence 1, ça valait environ 10 000, 18 000 euros à peu près chacun. Et aujourd'hui, ça vaut plutôt 200 000, 400 000. Donc, si vous l'avez acheté à l'époque, c'est un bon plan. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans cette iconographie, on retrouve l'esthétique des cypherpunks que j'ai montré avant. C'est quand même un univers assez sombre, nihiliste, et la dimension genrée n'est pas si évidente, je trouve, dans cette iconographie. Donc, je trouve ça assez intéressant de ce point de vue-là. Voilà, ici, il y a des outils en ligne pour analyser la rareté avec tout un tas de paramètres, et il n'y a pas le paramètre genre, par exemple, il n'existe pas du tout dans cette série. Un autre exemple un peu plus joyeux peut-être, les CryptoKitties, même époque. Donc c'est une collection de chatons qui peuvent se reproduire, on peut les revendre. Donc c'est pas tout à fait un jeu vidéo, mais pas très loin, ça peut ressembler un petit peu à Pokémon. Et puis donc là, il y a l'idée un peu des sept familles en quelque sorte, hein, de pouvoir les collectionner. Ça pareil, ça vaut aussi assez cher, moins que les CryptoPunks, mais c'est quand même assez coté. Autre exemple que je trouve affreux visuellement, mais malgré tout qui est intéressant, le Bored Ape Yacht Club, c'est vraiment cet exemple qui a mis le feu aux poudres en ligne sur les NFT. Pourquoi ? Parce que contrairement au CryptoPunk et à CryptoKitties, ça c'est devenu un marqueur social très puissant dans le showbiz. Il y a Jay-Z, Eminem qui en ont acheté, etc. Donc c'est, et du coup, c'est là que les gens se sont dit « mais c'est complètement débile ces trucs, en plus ça vaut cher, ça sert à rien, et en plus ça pollue ». C'est un peu les principales polémiques qu'on retrouve. Et puis c'est qu'une image. Alors ce qui est faux, parce que ça, c'est pas qu'une image. Quand vous achetez un de ces Bored Apes, ça vaut environ 200 000 euros, je crois, aujourd'hui, ça vous donne accès à un club exclusif. Et du coup, bah, ils ont fait une soirée sur un yacht. Et si, même si vous étiez Jay-Z, vous n'avez pas votre image signée, bah, vous ne rentrez pas. Donc si vous avez copié-collé l'image, ça ne marche pas, en fait. Et c'est là que les gens ont compris qu'en fait, les NFT, ce n'était pas que des images qu'on pouvait copier-coller. Donc ça donne accès à un club exclusif qui est, du coup, une sorte de famille. Et quand vous rentrez là-dedans, vous pouvez aussi, du coup, participer à l'évolution du club, avec tout un tas de produits dérivés, pas très intéressants, mais bon, semble-t-il que ça fonctionne bien. Ouais, je mentionne également d'autres initiatives. Ici, donc une initiative où une partie des gains, une toute petite partie, hein, 2,5%, seront versés à des associations féministes, mais voilà, on pourrait aller bien plus loin dans... Là, on peut même se demander si le pourcentage est tellement faible que c'est vraiment ce que ça prétend être. Alors, du coup, synthèse des NFT, donc une esthétique entre jeux vidéo, pop culture, web et nihilisme. Ça, je ne l'ai pas mentionné avant, mais ces communautés en ligne sont très soudées. Il y a des codes très particuliers sur Twitter et Discord pour connaître les séries, savoir quand ça va arriver. Il y a ce qu'on appelle les drops, c'est des récompenses, des systèmes de préachat. Enfin, c'est des codes très particuliers liés à la crypto qui sont très durs à comprendre quand on n'est pas dans cet univers. C'est devenu un marqueur social très puissant. Tout simplement, en temps de pandémie, moi, j'habite dans un pays où il y a des montres hyper chères. Si vous avez une montre et que vous êtes coincé chez vous, votre montre, elle ne sert à rien socialement. Par contre, si vous avez un avatar sur Twitter ou Instagram qui est un CryptoPunk, là, on se dit « Ok, cette personne-là, je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'elle possède un CryptoPunk et c'est quelqu'un d'important dans le milieu. » Donc, les NFT sont intégrés notamment dans Discord et Twitter depuis plusieurs mois pour les avatars. Également, le pseudonymat, ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas de l'anonymat, mais c'est du coup le remplacement de votre identité par une clé chiffrée, disons, générique. Des clubs privés à l'entrée infalsifiable. Donc des clubs de riches, autrement dit. Et puis malgré tout, les CryptoPunks qui ne sont pas genrés dans leur esthétique, les personnes qui les possèdent le sont. Et donc c'est quand même, en grande partie quand même des mecs, voilà, d'où l'expression de Crypto Bros pour désigner cet univers. Donc on voit que c'est pas si clair sur l'identité genrée. Ça me fait une transition parfaite sur la brique du Web3 que j'évoquais tout à l'heure, sur les identités numériques. Donc on retrouve ce CryptoPunk. Du coup, voilà, à gauche, si les personnes dans la salle sont amateurs de memes, vous l'aurez reconnu. Donc, des traits physiologiques, une espèce de loterie génétique, avec la promesse des NFT de pouvoir choisir son identité en ligne et les valeurs et les croyances qui y sont rattachées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les codes NFT maintenant dans la mode. Je vais vous montrer cette petite vidéo de Balenciaga. Là, je trouve ça assez intéressant. C'est une collection très récente. Et c'est en quelque sorte des looks NFT, je trouve. Hein. Ah, c'est pas marketé comme ça, mais ça m'a fait penser... immédiatement à ça. Bon, de la même façon que les marques de mode ont l'organisé sur le jeu vidéo, c'est assez logique qu'ils aillent aussi vers ce type d'univers. Alors, voilà, l'identifiant. Donc, si vous êtes relativement vieux, du coup, vous connaissez la partie 1, donc mot de passe, email classique. Identifié dans le web 2, c'est avec Google, Facebook, Twitter ou Apple, ce qui fait que vos données sont dépendantes de ces mastodontes. Et avec le Web3, c'est vraiment différent. Vous signez le login avec votre wallet. Le wallet, qu'est-ce que c'est ? C'est un portefeuille électronique dans lequel sont stockées vos crypto-monnaies, vos NFT. Du coup, vous vous identifiez avec ça. C'est que votre mécanisme d'identification est totalement indépendant de la plateforme sur laquelle vous vous loguez. Un exemple clé pour comprendre ça, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un peu plus d'un an, un an et demi, il y avait pendant 3 jours, Facebook était tombé. Si vous vous souvenez, c'était terrible, moi j'étais en panique. Vous ne pouviez plus aller sur Instagram, sur Facebook, etc. Et même les employés de Facebook n'avaient plus accès à leurs locaux physiques parce que du coup, pour rentrer dans les bureaux, il fallait s'identifier avec Facebook. Et comme le serveur était tombé, ça ne marchait plus. Et donc, une telle panne est impossible avec le Web3 parce que c'est un système peer-to-peer de login. Donc, ça a quand même pas mal d'avantages. Et donc, ce Connect Wallet, vous allez le voir vraiment de plus en plus souvent dans les mois et dans les années à venir. Ici, une petite capture d'écran en GIF pour montrer comment ça marche. Donc, on se log avec son wallet et du coup, après, la plateforme peut récupérer ce qu'il y a dedans et du coup, vous proposer les services en fonction de ce que vous possédez ou pas dans votre portefeuille. Donc ça va vraiment devenir l'élément central de l'identité en ligne. Ça va fusionner vos comptes bancaires, vos données, etc., etc., tout en vous donnant le contrôle absolu sur ce qui circule ou pas. Alors ça, j'ai mis, c'est un projet en cours de recherche que je mène à Genève, parce que c'est des technologies quand même assez incompréhensibles pour le grand public. Et il y a une pauvreté graphique affligeante, si vous tapez blockchain, donc Google Images, de ces technologies. Et donc, avec une graphiste et un collègue, on a un projet de lexique en ligne et de kit visuel open source. Donc là, c'est la première fois que je montre cette image. Des recherches en cours sur comment montrer ces avatars, ces users. Est-ce qu'il faut les genrer ou pas? Donc, c'est des réflexions qu'on a. Et est-ce qu'on fait aussi des avatars par type de classe sociale ou type de valeur? Donc, c'est, voilà, je vous montre quelques propositions graphiques. On pourra rediscuter à la fin. Et du coup, voilà, des pictogrammes techniques qui vont permettre, du coup, d'expliquer ces technologies et de les modéliser. Donc là, il y a un vrai enjeu, et ça, ce sera disponible en licence CC0 d'ici septembre, si tout va bien. Donc voilà, en synthèse de cette partie, donc identité visuelle ou identité technique, la clé publique devient votre nouveau RIB dans cet univers. Est-ce qu'on parle d'identité ou d'identifiant? C'est quand même pas tout à fait la même chose. On peut se valoriser, mais aussi se masquer, et puis des enjeux de genre et de pseudonymat. L'idée du vrai nom, je pense que tu avais étudié ça dans un article récent, Facebook qui demande le vrai nom, bah, dans le Web3, ça ne tient pas. Il n'y a pas de notion de vrai nom. Alors, avant dernier chapitre, les DAO, non, c'est le dernier même, les nouvelles familles des DAO, donc ces organisations décentralisées. On va voir quelques exemples, ça va être plus clair pour vous, j'espère. À quoi ça sert? Alors déjà, un premier axe, bah, comme c'est des communautés très soudées, qui croient en ces valeurs, du coup, un des premiers axes, c'est de valoriser la culture crypto. Je vais vous montrer quelques exemples dans le champ du cinéma. Ici, donc, un documentaire sur la blockchain Ethereum qui a été financé. Donc, c'est des nouvelles formes de crowdfunding avec la vente de NFT. À vrai dire, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça vous donne aussi vous devenez en quelque sorte coproducteur du documentaire en achetant ces jetons, et du coup, vous gagnez des gains sur les revenus du documentaire. Ce qui n'est pas possible sur Kickstarter, vous achetez un goodies, grosso modo, mais vous ne devenez pas coproducteur. Donc la blockchain permet, c'est vraiment devenu un sujet majeur dans le cinéma, des nouveaux modèles de financement très puissants pour un secteur relativement en crise. Il y a aussi Ridley Scott qui va produire un film adapté d'un bouquin fameux dans le milieu qui est prévu pour cette année ou l'année prochaine. Et puis je crois que c'est Martin Scorsese qui a financé récemment un long métrage avec ce système de crowdfunding en blockchain. Ma connexion a dû sauter, mais ouais. Voilà, je vais essayer de la remettre. Ici, la série Stoner Cats, donc ça, c'est une série animée qui a été financée par la vente de NFT qui ressemblent à des chatons. Voilà, ça apparaît, c'est parfait. Donc vous achetez une image de ce type-là, je ne sais plus combien ça valait à l'époque, mais peu importe. Et du coup, donc vous possédez cette image et ça vous donne droit à accéder aux épisodes. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le Connect Wallet, si vous m'avez bien suivi avant, qui permet de vous identifier sur le site web, et si vous possédez un NFT, et seulement si, alors vous pouvez voir les épisodes de la série, et en plus, vous participez à l'évolution du projet avec un droit de vote sur les futurs épisodes. Ça a généré beaucoup d'argent, et il y a des stars comme Mila Kunis, c'est ça, ouais, je crois, qui ont prêté leur voix au doublage de la série. Donc ça, c'est la culture crypto. Alors, un peu moins réjouissant peut-être, le play to earn, faire famille pour nourrir sa famille. Donc ça, c'est l'idée, le jeu vidéo, c'est le secteur culturel majeur, même de très loin au niveau économique, c'est deux fois le cinéma et la musique, réunis plus de deux fois. Et donc, ce qui se passe dans le jeu vidéo, ben, c'est un peu comme les GAFA, c'est-à-dire que vous passez 200 heures dans un même RPG, vous passez sur Fortnite, pareil, beaucoup, beaucoup de temps, et la valeur que vous créez dans ce jeu, ben, elle est captée par l'éditeur et vous n'en gagnez rien en tant que joueur. La promesse du play to earn, je dis bien la promesse, c'est du coup de redistribuer une partie des gains, voire même la majorité, aux personnes qui s'investissent dans ces univers en ligne. Et donc, l'exemple le plus intéressant, je trouve, dans cet univers, c'est celui-ci, Axie Infinity, qui ressemble un peu à Pokémon. Et donc, pour jouer, vous devez acheter trois de ces créatures. À l'époque, ça valait environ 500 euros chacune. Donc, vous devez déjà mettre 1500 euros pour commencer à jouer, ce qui est plus qu'une PS5. Et après, vous gagnez de l'argent au fur et à mesure que vous jouez avec un système de compétition. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce jeu a créé une économie parallèle, notamment en Asie, aux Philippines. C'est-à-dire que ça, c'est en fait, il y a plus de 50%, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais plus de 50% des commerces de l'île qui acceptaient le token du jeu, le SLP, le Smooth Love Potion. Donc, ça a eu des impacts considérables sur la population locale. Et du coup, avec un collègue à Genève, on a étudié dans des forums Discord la vie de ces personnes et comment ça a impacté les populations locales. Donc ici, on voit voilà, une joueuse du jeu Axie Infinity devant sa maison, et qui nous dit, voilà, en témoignage, que du coup, en jouant 3 à 4 heures par jour, alors ça, c'était en septembre, hein, depuis le jeu s'est cassé la gueule, que du coup, elle gagnait environ 5 fois le revenu de base en jouant sur son téléphone, et qu'en plus de ça, le jeu était intéressant en tant que jeu. Donc un potentiel revenu universel, mais totalement instable. Bah, c'est toujours compliqué dans la blockchain. On peut voir ça de plein de façons. En tout cas, ouais, ça mériterait une étude plus approfondie. Autre exemple, fusionner libertarisme et communisme. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais cet exemple, je vous direz si vous êtes d'accord avec cette hypothèse. The Non-DAO, donc ça, c'est une matrice open source qui génère chaque jour un avatar pixelisé. Là, c'est le site actuel. Hein. Au 2 juin, vous pouvez enchérir. Il y a 79 Ether. Donc, un Ether, c'est 3 000 €. Donc, ça fait quand même une somme assez rondelette. Donc, ça part en général à 200 000 €, ce genre d'avatar. Donc, si vous arrivez à l'acheter, après, vous devenez du coup copropriétaire ou associé du projet en entier. Et vous pouvez gérer la trésorerie qui se monte à 24 000 Ether. Donc, c'est carrément dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Une fois que du coup, vous avez acquis ça, vous pouvez voter pour l'allocation de cette trésorerie. C'est où les... Voilà, ici. Donc ici, vous avez plusieurs propositions. Donc vous pouvez soumettre des propositions à la communauté. Les gens vont voter. Et si c'est voté, l'argent est pris pour exécuter la proposition. Donc qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu un livre pour enfants. Il y a eu de l'argent qui a été envoyé en Ukraine. Il y a eu un documentaire qui a été produit, etc. etc. Donc vous voyez, en fait, on est... c'est dur à analyser ce genre d'exemple, parce que c'est à la fois hyper-capitaliste, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a une sorte de pot commun qui peut se rapprocher du communisme à des causes sociales. Donc c'est tout ça à la fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si demain, Non-DAO... on voit là 44 millions de dollars, ouais, c'est considérable. Qu'est-ce qui se passerait si demain, Non-DAO voulait financer une guerre? Ils pourraient, ils auraient les moyens. Ou qu'ils financent une religion ou un parti politique. On voit qu'on arrive maintenant à des choses complètement dystopiques qui se substituent aux États et qui sont totalement inarrêtables, parce que pour contrer ça, il faut couper le web, ce qui est quand même un peu compliqué. Vous voyez, derrière les images, derrière cette image en apparence marrante, il y a tout un système économique qui est une famille qui est aux implications, je trouve, vraiment, vraiment lourdes. Dernier exemple, faire famille entre humains et non-humains. Donc ça recoupe un petit peu la conférence sur Replica. C'est un exemple que je trouve le plus intéressant au niveau artistique. Alors, il est un peu compliqué à expliquer, il y a beaucoup de buzzwords. En gros, donc alors je ne sais pas trop comment on rentre dedans, mais je crois qu'on doit acheter un token qui s'appelle le Boto. Je ne sais pas trop combien ça vaut. Une fois que vous avez ça, vous êtes confronté à un programme qui, chaque semaine, vous présente 350 images générées par du machine learning. Ça fait beaucoup de buzzwords. Hein. Le machine learning, donc, c'est des techniques d'apprentissage automatique qui peuvent générer du texte ou des images. En l'occurrence, ici, Boto va générer des images qui peuvent se rapprocher de mouvements de l'histoire de l'art à partir de textes qui changent chaque semaine. Donc vous êtes confronté à 350 fragments artistiques. Vous votez pour vos préférés. Et donc, l'algorithme va apprendre de ces goûts-là. Donc, ça crée une sorte de goût collectif, parce que du coup, c'est tous les votes de la communauté qui sont rassemblés. Et chaque semaine également, Boto va générer 3 œuvres complètes qu'il va placer sur une place de marché en ligne de NFT. Donc, ces œuvres vont être vendues aux enchères. Et les gains sont après redistribués à la communauté. Ça marche. Les premières œuvres ont été vendues il y a environ un mois, et ça a rapporté plusieurs millions de dollars qui, du coup, ont été répartis. Donc, c'est une sorte de communauté réunie autour d'un artiste algorithmique basé sur technologie blockchain et DIA. Tous les buzzwords sont réunis dans cet exemple. Mais je trouvais ça intéressant. Conclusion. Mes problématiques, c'était quelle famille les protocoles du Web3 produisent-ils? J'espère que maintenant vous avez un peu mieux compris ce qu'est le Web3. Et est-ce que ça permet de dépasser des stéréotypes ou est-ce que ça les renforce? Forcément, un peu des deux. Tout d'abord, on a un possible dépassement des identités biologiques avec ces notions de pseudonymat, d'avatar et de clé publique que je trouve intéressantes. On a également un rejet des institutions traditionnelles. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que voilà, les banques, on peut trouver ça nul. Mais par contre, quand il s'agit d'échapper à l'impôt, c'est un peu moins cool. Donc on est entre libertarisme et anarchisme complètement. On a une réduction, je ne dis pas une annulation parce qu'il y a quand même des nouvelles plateformes qui existent, mais quand même une réduction du poids des plateformes et des intermédiaires. Parce qu'en fait, comme les données sont stockées publiquement dans la blockchain, même si la plateforme se casse la gueule, on peut la rapatrier et en recréer une autre, ce qui est impossible avec MySpace. C'est détruit, c'est fini à jamais. Si demain YouTube disparaît, toutes les données, c'est ciao. Là, comme tout est dans la blockchain, il y a beaucoup moins de dépendance à des intermédiaires. Et donc, on arrive à des organisations ou des familles autogérées par centre d'intérêt. Mais quand même en grande partie sur des valeurs économiques. Et du coup, moi, je me demande si on n'est pas d'une sorte de retour au suffrage censitaire. Donc ça, c'était dans des vieux pays, mais finalement, peut-être c'est pas si vieux comme idée, où on devait acheter son droit de vote. Et le pacte d'associés également, on a vu au début dans la définition de la famille que c'est des personnes réunies par un pacte. Bon, bah là, qui est smart contract, il me semble qu'on est totalement dedans. Quoi. Et voilà pour ma conférence. Je vous remercie et je suis preneur de vos questions et remarques.
On a un tout petit temps pour les questions avant d'aller déjeuner. C'est parti.
Merci. Alors, j'ai 12 000 questions. Du coup, je vais essayer de fixer mon truc. Tu as beaucoup parlé donc, de décentralisation en l'associant à la blockchain. Et donc, je voulais savoir si pour toi c'était une association exacte. Et pourquoi je pose la question? Parce que moi je suis plutôt sur le web à chercher des alternatives qui sont des alternatives libres et décentralisées et qui du coup ne nécessiteraient absolument pas de blockchain. Et donc voilà, je voulais savoir si tu avais ça en tête ou si tu faisais une distinction entre ces deux types de décentralisation.
Alors évidemment, la décentralisation, elle n'est pas du tout restreinte à la blockchain. Il y a bien d'autres exemples, le peer-to-peer traditionnel, etc. Maintenant, le Bitcoin, c'est complètement décentralisé. Donc ça, c'est clair que toute la blockchain est décentralisée. Théoriquement, parce que dans les faits, il y a quand même des nœuds qui se reforment et qui polarisent. Mais le Bitcoin, c'est un code source qui est totalement libre de droit, que tu peux auditer, que tu peux forker. Donc on est vraiment totalement dans l'open source. Maintenant, ça ne se restreint pas à ça. Évidemment qu'il y a bien d'autres formes de décentralisation, y compris en dehors de la technologie, qui fonctionnent. Mais on est complètement dans les valeurs du libre à la base. Et même Ethereum, le code source est libre également, quoi. À peu près tous les projets en blockchain sont libres de droit, au niveau du code. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais...
Merci, quand vous en avez marre, on va vous poser des questions. L'autre question que j'avais, c'était... alors, je n'ai pas vu la vidéo moi-même parce qu'elle était super longue, mais on en a beaucoup parlé. C'est une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Folding Ideas. Et qui analyse la façon, enfin qui analyse le phénomène des NFT maintenant comme étant une façon pour des gens qui ont investi dans du Bitcoin et bien de récupérer de la vraie entre guillemets valeur monétaire parce que le Bitcoin étant maintenant tellement cher, c'est plus difficile de trouver des gens qui en achètent et donc du coup le fait de créer une image, ça permet de alors je suis économiste, alors c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Mais en gros, les gens qui investissent dans Bitcoin n'arrivent plus à revendre leur Bitcoin et du coup, ils transfèrent ça sur des NFT et là, ils revendent des NFT et là, il y a de nouveau une mode pour ça et donc du coup, ils se récupèrent de la valeur monétaire en euros. Quoi. Et donc, tout ça, c'est symptomatique d'un système pyramidal qui est un système d'arnaque. Quoi. Et donc, voilà, je voulais savoir si ça, dans la communauté des crypto-bros, c'était... Il y avait conscience de ces choses-là, s'il y avait des choses qui étaient mises en place pour éviter de tomber justement dans un truc hyper pyramidal, ou si au contraire c'était un impensé total de la communauté.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai écrit un article récemment qui situait les NFT entre spéculation et redistribution. Je pense qu'en fait, c'est les deux. Alors, les bitcoins, on peut les revendre en un clic, donc ça, c'est pas du tout un souci. Maintenant, c'est clair que les NFT, il y a eu un effet de buzz considérable avec des prix délirants. Mais c'est délirant également dans d'autres domaines. Le prix des matières premières aujourd'hui s'est envolé. L'inflation dans beaucoup de pays est à 7 ou 8%. La livre turque ne vaut plus rien. Le Salvador s'est ruiné. Donc, du coup, c'est un problème global dont les NFT font partie. Mais je ne restreindrai pas la spéculation à cet univers. Là, récemment, j'ai lu sur Le Monde que les sacs Hermès sont classés maintenant comme un investissement financier. Ou même les Lego. Si vous achetez des Lego, ça rapporte plus que de l'or, par exemple. Donc, du coup, est-ce que c'est le plus débile d'acheter des images de singes ou des Lego ? Ou des timbres postes, bon, je ne sais pas. Du coup, je resituerai ça dans cet univers. Et maintenant, c'est clair que les acheteurs, par contre, des NFT, ce n'est pas des NFT artistiques. Hein. Les NFT artistiques, c'est environ 20% des NFT. Il y en a bien d'autres sortes. Je n'ai pas eu le temps de les développer. Mais c'est clair que ce n'est pas des acheteurs traditionnels du monde de l'art. C'est des gens qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies et qui les achètent, oui, pour gagner de l'argent, mais aussi pour se valoriser dans cette communauté. Des gens qui ont tellement d'argent qu'en fait, acheter des marqueurs traditionnels de valeur, ça ne fait pas grand sens pour eux. Et donc, du coup, ils préfèrent acheter ces avatars, pas forcément pour les revendre. Et après, il y avait plusieurs sous-questions dans ta question, donc j'ai sans doute oublié des choses.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux types de populations. Il y a les gens qui achètent les NFT pour leur marqueur social, mm-hmm. mais il y a les gens qui se servent du NFT pour pouvoir écouler leur, pour pouvoir retrouver une économie.
Oui, tout à fait. Complètement. Bah, du coup, je pense que je ne le formulerai pas comme j'arrive pas à vendre mes bitcoins, donc je vais dedans. C'est plutôt, je peux me faire d'argent davantage qu'avec les bitcoins. Je le formulerai plus comme ça. Mais oui, c'est sûr. Après, là, ça s'est bien cassé la gueule récemment. Donc, du coup, ce pari-là, c'est plutôt avéré perdant. Et pour donner un avis assez cash, hein, moi, je pense que 95% des projets NFT sont nuls. Ça n'a aucun intérêt de vendre des images signées. Il y a bien d'autres choses plus intéressantes à faire. Et du coup, cet éclatement de la bulle, comme le web des années 2000, va assainir, je pense, hein, cet univers et permettre à des projets plus intéressants d'être valorisés. Comme ceux que j'ai montrés, je trouve qu'ils sont bien plus intéressants que ces singes pour aller sur des yachts.
Et dernière question, en même temps, il va être l'heure d'aller se restaurer. Donc, Anthony, un grand merci à toi, bravo, c'était un fabuleux comme d'habitude. Et je répète ma petite suggestion tout à l'heure, on va nourrir en priorité nos intervenants. Et si vous voulez vous joindre à nous pour déjeuner au parc Compense, bah, tout le monde va prendre son petit plateau, y aller, on a sans doute de quoi faire pour nourrir les personnes en présence. Voilà, à voir avec l'organisation. Et on se retrouve ici à 14h. Je rappelle qu'il y a aussi une projection à 18h30. On verra un petit morceau du film de Kim Espelt aussi, qui est passionnant. Donc on aura encore plein de choses sur le cinéma. Et dernier petit point, j'ai parlé hier du dispositif Writerer sur Twitter, alors qu'il ne se valorise pas en NFT, mais ça permet d'échanger des mini-fictions autour du hashtag Writerer. Et donc le thème du mois de juin, c'est les affaires de famille. Donc je vous encourage à aller voir ce qui s'y passe et ce qu'on se raconte. Merci encore pour votre écoute. Bon appétit.